Alors c'est par là qu'a dû arriver la fameuse reine de Saba, dont Jésus parle dans l'évangile. La reine de Saba qui vient des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Dans l'évangile, de fait, il y a plus que Salomon, mais il faut le savoir. On vient encore une fois ici dans l'exceptionnel pour réveiller l'émerveillement. Et moi, quand j'assiste aux visites diplomatiques actuellement à Jérusalem, j'habite tout près du consulat d'Amérique, je trouve ça très très banal. Écoutez un peu comment ça se passait au temps de Salomon. La reine de Saba a pris la renommée de Salomon et vint éprouver celui-ci par des énigmes. De mettre en boîte. Elle arriva à Jérusalem avec une très grande suite, des chameaux chargés d'aromates, d'or, en énorme quantité de pierres précieuses. Et quand il fut arrivé auprès de Salomon, elle lui proposa tout ce qu'elle avait médité. Mais Salomon l'éclaira sur toutes ses questions et aucune ne fut pour le roi un secret qu'il ne put élucider. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il s'était construit, le menu de sa table, le placement de ses officiers, le service de ses gens et leurs livrées, son service à boire, les holocaustes qu'il offrait au temple de Dieu, le cœur lui manqua. Et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire de toi et de ta sagesse dans mon pays était donc vrai. Je n'y croyais pas, il fallait que je voie, mais ça dépasse ce que j'imaginais. Et alors, elle donna au roi 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Et la reine de Saba avait apporté au roi Salomon une abondance d'aromates telle qu'il n'en vint plus jamais de pareil. De même, la flotte d'Iram, qui apporta l'or d'Ophir en apportant du bois d'Almougim, du bois précieux, en grande quantité, des pierres précieuses. Alors on fait des lyres pour les musiciens, des harpes. Quant au roi Salomon, il offrit à la reine de Saba tout ce dont elle manifesta l'envie. Et vous savez que le négus d'Éthiopie se réclamait de ce verset par un petit coup de pouce exégétique pour dire qu'il descendait de Salomon, étant donné que la reine de Saba il lui a donné Salomon tout ce dont elle manifesta l'envie. En plus des cadeaux qu'il lui fit avec une munificence digne du roi Salomon. Alors le roi Salomon a une richesse tout à fait extraordinaire, de l'or. Tous les vases à boire du roi étaient en or, des chars, des chevaux, une flotte de Tarsis. Ah tenez, la flotte puisqu'on est devant ici le port. Étienne Gaber en discute. Il y a deux personnages qui font autorité. C'est un certain Nelson Gluck qui pense que le port d'Étienne Gaber était à la frontière actuelle entre la Jordanie qu'on voit là-bas et puis Israël. Et celui qui fait autorité maintenant, c'est un Israélien qui s'appelle Benoît Rothenberg, et il pense que c'est une petite île qui se trouve plus au sud et qui est maintenant en territoire égyptien. Et de fait, il y a deux îles qui sont reliées par un isthme artificiel, et les archéologues ont vu des installations portuaires de l'époque du premier temple. C'est pas du tout impossible. Bon, enfin, ce qui est important, c'est Salomon et une flotte de Tarsis. Elle revenait tous les trois ans chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de guenons. Alors, Salomon, vous savez qu'il a atteint des sommets de la sagesse, etc. Il a profité des biens de ce monde. Et puis, après son règne, vous savez ce qui s'est passé? Ça a été la dégringolade. Et alors, on s'est beaucoup interrogé à ce moment-là. Comment est-ce qu'une apogée, comme a été l'apogée salomonienne, a pu être suivie presque immédiatement d'un schisme? 10 tribus ont fait schisme. Et on consommait le schisme politique par un schisme religieux. On a fait deux veaux, là, à Bethel et puis à Dan. La tribu de Juda est restée toute seule avec le roi Roboam de la descendance de David. Et on s'est interrogé, écoutez un petit peu. Alors on dit que Salomon, à la fin de sa vie, écoutez ça un peu, il aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, de ces peuples dont Dieu avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux et ne viendront pas chez vous, car ils vous détourneraient les cœurs vers leur Dieu. Salomon s'attacha à elle par amour. Il eut 700 épouses de rang princier, 300 concubines. Et quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier au Seigneur son Dieu, comme avait été celui de David. Et moi je pense que ça nous amène à nous poser cette grande question là qui s'est posée. Vous voyez, dans la Bible c'est comme ça. On est affronté dans l'histoire, dans le concret de l'histoire, à des problèmes de ce genre-là. On interroge le passé pour y trouver des réponses. On ne se réfère pas à des idéologies vagues, on se réfère au vécu dans le passé. Et puis, cette question, elle en prend une ampleur, et c'est tout le problème du mal qui se trouve posé avec Salomon. Et moi, je suis sûr que les scribes contemporains de Salomon qui travaillaient, là, qui ont interrogé les archives à cette époque-là, eh bien, la rédaction des chapitres qui suivent immédiatement ce premier chapitre de la Genèse que nous avons lu, pas le péché, la dégringolade, tout cela, eh bien, ont été certainement un essai de rendre compte non seulement du problème qui s'était posé au temps de Salomon, mais d'un problème qui se pose à toutes les époques de l'histoire, qui se pose de notre temps, et puis qui peut être la seule réponse valable, je pense à ce que disait Pascal, au problème de ce mal du monde. Comment le monde de la beauté, de l'harmonie, qui reflète l'harmonie de Dieu, ce monde qui en 7 jours et en 10 paroles a surgi du chaos et reflète l'harmonie divine, comment a-t-il pu devenir le chaos? Comment a-t-il pu devenir le monde, non plus de l'action de grâce, mais le monde de la pollution, le monde que nous connaissons, le monde dont il faut sortir si on veut retrouver la liberté? Ce monde dont parle l'évangile, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous allez voir dans la Bible, partout, il y a comme une opposition entre cette ville vers laquelle Dieu nous oriente, dont lui est l'architecte et le fondateur, et puis ces contre-projets que l'humanité élabore et qui provoquent des retours au chaos. Vous connaissez tous le traité de Saint-Augustin, là, les deux cités. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. Et puis l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, Babel. Et le chanoine Journet ajoutait que la frontière de ces deux cités passe au milieu du cœur de chacun de nous, et que la Bible, bah, c'est comme la carte que nous avons sans cesse à reconsulter tout au long de notre existence pour trouver la route, hein, pour passer de Babel à Jérusalem, de cette Babel où nous sommes, qui est aussi l'Égypte, qui est aussi Ninive, qui est aussi la grande ville dont parle l'Apocalypse, où le Seigneur fut crucifié. Oui, tout ça se synthétise au plan de la signification. Et je crois que celui qui a parlé avec le plus de lucidité de ce monde dont nous devons sortir, et qui est évoqué par l'Égypte, par Ninive, par la grande ville où le Seigneur fut crucifié, c'est encore l'épître aux Romains de Saint Paul. Je continue. Saint Paul disait que ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde, ce langage que Dieu parle dans la nature, est rendu visible à l'intelligence par ses œuvres. Et il dit ensuite que les hommes sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ont échangé la gloire du Dieu vivant contre l'idolâtrie. Et alors tout le mal du monde est là-dedans. Et Dieu, qui respecte notre liberté plus que nous-mêmes, nous laisse faire l'expérience de ce chaos, comme le père de l'enfant prodigue a laissé partir dans les régions lointaines de la dissemblance, dans les exils, son fils, jusqu'à ce qu'il revienne. Je me lèverai, je retournerai vers mon père. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas, remplis de toute injustice, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant pourtant le verdict de Dieu. Non seulement ils les font, ces mauvaises actions, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Et je crois que nous sommes tous complices de ce monde. Et si nous voulons retrouver la liberté, alors nous sommes invités à prendre la route, pas pour la retrouver. C'est ce que nous allons faire demain. Et nous allons sortir, comme les Hébreux sont sortis d'Égypte, et marcher vers la Sainte Montagne, où alors se produira, dans la tradition juive, le rapprochement se fait tout spontanément, comme une nouvelle création. De même que Dieu a créé le monde en 10 paroles et en 7 jours, eh bien de même le décalogue apparaît comme une nouvelle création, pas en 10 paroles. Et un peuple nouveau de rois et de prêtres naît au pied de cette Sainte Montagne, et la création asservie à la servitude attend dans les douleurs de l'enfantement la manifestation de ses fils de Dieu. Cette génération de rois et de prêtres qui vont reprendre possession du monde pour lui imprimer cet élan eucharistique dans lequel le monde va retrouver son harmonie, la tranquillité de l'ordre et la paix dans un grand élan eucharistique.